Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Arjuna Andrade, Cédric Fuentes, Louis Drillon, Julie Delabrosse et Aliette Ovine. À la réalisation, Elisabeth Miro, prise de son, Jean-Frédéric.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
Cette semaine, c'est un objet singulier et insaisissable que nous allons ausculter à travers le prisme de l'économie et de la sociologie. Le corps, cette interface entre soi et le monde, sans cesse investi par des enjeux de pouvoir. Nous allons parler du corps stéréotypé, du corps que l'on donne ou que l'on vend, du corps dont la matérialité effraie ou rassure. Et d'abord, c'est la naissance de l'intime au siècle des Lumières que nous allons explorer aujourd'hui. Il est 14h sur France Culture. Bienvenue dans Entendez-vous l'écho. Nous allons nous pencher sur la perception de soi et sur la conscience du corps en compagnie de l'un de ses plus éminents spécialistes, Georges Igarello, directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et auteur, entre autres, du sentiment de soi et d'une histoire du corps, est notre invité aujourd'hui. En fin d'émission, comme chaque jour, Arjuna Andrade nous donnera des nouvelles de l'écho.
Un matin que je n'étais pas plus mal qu'à l'ordinaire, en dressant une petite table sur son pied, je sentis dans tout mon corps une révolution subite et presque inconcevable. Je ne saurais mieux la comparer qu'à une espèce de tempête qui s'éleva dans mon sang et gagna dans l'instant tous mes membres. Mes artères se mirent à battre d'une force si grande que non seulement je sentais leur battement, mais que je l'entendais même et surtout celui des carotides. On peut juger de ma surprise et de mon effroi. Je me crus mort, je me mis au lit, le médecin fut appelé. Je lui contai mon cas en frémissant et le jugeant sans remède. Je crois qu'il en pensa de même, mais il fit son métier. Il m'enfila de longs raisonnements où je ne compris rien du tout, puis, en conséquence de sa sublime théorie, il commença in anima willi la cure expérimentale qui lui plut de tenter. Elle était si pénible, si dégoûtante et opérait si peu que je m'en lassai bientôt. Et au bout de quelques semaines, voyant que je n'étais ni mieux ni pis, je quittai le lit et repris ma vie ordinaire avec mon battement d'artère et mes bourdonnements, qui depuis ce temps-là, c'est-à-dire depuis 30 ans, ne m'ont pas quitté une minute.
Bonjour Georges Vigarello.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez reconnu le texte que l'on vient d'entendre ?
Oui, bien sûr.
Alors de quoi s'agit-il ?
Alors c'est soit un texte de Rousseau, soit un texte de Benjamin Constant.
C'est un texte de Rousseau.
C'est un texte de Rousseau.
Rousseau
est magnifique parce qu'il montre comment ce phénomène qui l'a troublé est un phénomène qui s'est installé dans la durée, ce qu'il dit d'ailleurs très bien, qui s'est installé dans la durée et qui l'accompagne. Donc au fond, c'est un corps intime qui l'accompagne tout au long de son existence, auquel il est attentif.
En quoi ce texte traduit, Georges Vigarello, ce nouvel intérêt pour le corps qui apparaît au XVIIIe siècle ?
Alors, on peut dire que c'est un intérêt qui traverse finalement l'histoire de l'humanité, on peut dire ça. La douleur est toujours présente, les malaises sont évoqués aussi bien par les patients que par les médecins. Mais qu'est-ce qui se passe au moment des Lumières ? Qu'est-ce qui se passe ? On peut prendre aussi l'exemple de Montaigne. Vous voyez Montaigne qui tombe de cheval et qui raconte sa souffrance. Mais quand vous lisez avec attention le texte de Montaigne, vous voyez que très vite, il glisse à l'âme. Il glisse à la perte de conscience, il glisse à l'âme, il glisse à l'imaginaire. Or, que fait Rousseau ? Rousseau, au contraire, reste extrêmement centré sur ce qu'il vient de vivre physiquement et ce qui l'accompagne physiquement. Autrement dit, il y a quelque chose qui émerge au XVIIIe siècle et qui est ce sentiment d'une présence. Mais je pense qu'il faut dire davantage. Je crois qu'il faut dire davantage et il faut prendre en compte un autre objet qui n'est pas directement cité par Rousseau, qui est plutôt cité par un auteur contemporain de Rousseau, qui est Diderot. Quel est cet autre objet ? Diderot, dans Le rêve de D'Alembert, qui est un texte que je trouve tout à fait admirable et profondément neuf, dans Le rêve de D'Alembert, qui date de 1769, Diderot s'interroge sur la façon dont nous éprouvons notre corps et dont nous éprouvons le sentiment que ce corps peut nous donner le sentiment de changer. Par exemple, on peut avoir l'impression que brusquement nos bras s'allongent considérablement. Nous pouvons avoir l'impression, dit Diderot, à travers le rêve de D'Alembert, nous pouvons avoir l'impression que nous sommes installés sur des ressorts. Autrement dit, il s'interroge sur la façon dont il se représente. Vous voyez, c'est quelque chose de plus riche dans une certaine mesure que ce que l'on a entendu chez Rousseau, qui pourtant est fondamental. Il s'interroge sur la façon dont nous nous représentons notre intériorité et dont notre intériorité peut nous donner le sentiment qu'elle nous trahit par rapport à sa réalité. C'est-à-dire que notre intériorité peut prendre de la distance par rapport à ce qui représente la réalité de notre existence. Ça, c'est fondamental. Alors, pourquoi c'est fondamental? Parce que, bien sûr, là encore, on peut dire que ça a existé. On peut dire que les mélancoliques, par exemple, dans la tradition, font référence à une façon de s'éprouver. Je donne des exemples qui sont très nombreux. Le mélancolique, mettons au XVIe siècle, chez des auteurs, peut-être celui qui ne veut pas s'approcher d'un feu parce qu'il a le sentiment qu'il est en cire et qu'il peut fondre.
Et puis avant même le XVIe siècle, l'historien Jacques Le Goff écrivait que la civilisation médiévale est une civilisation du geste.
Absolument. Absolument. Même on peut dire, il y a des exemples dans l'Antiquité des mélancoliques. Un autre exemple de mélancolique, pour aller très vite, c'est celui qui a le sentiment qu'il est en verre et que si on s'approche trop de lui, son existence peut se rompre. Vous voyez, c'est vraiment le mot. Alors, qu'est-ce qu'apporte de plus le texte de Diderot? À mon avis, il apporte deux choses. Il apporte d'une part le fait qu'il attribue de l'importance à cet imaginaire et que c'est pas dérisoire, parce que souvent, dans le cas des mélancoliques, les auteurs ont tendance à sourire, à dire c'est pas important, bon, donnons-lui tel ou tel produit pour que ses humeurs deviennent un peu plus solides et qu'il ne se livre pas à des imaginaires fantasmagoriques. Donc, il prend ça au sérieux. Mais il prend ça au sérieux pour une deuxième raison. Parce qu'il dit, selon certains types d'imaginaires, j'ai le sentiment de ne plus exister. Et donc, je disparais. Et donc, du coup, la façon dont j'éprouve mon corps renvoie à quelque chose qui est absolument central. Diderot appelle ça le soi. Moi, je dirais, ça renvoie à l'identité. C'est-à-dire que la façon dont vous vous imaginez intérieurement, pour la première fois avec la Renaissance, renvoie à quelque chose qui est le lieu de votre identité. Alors, pour mille raisons, dans lesquelles je n'entre pas sur l'instant, on pourra les aborder, mais relevant le fait, qui est absolument central.
On va voir comment le corps devient peut-être à la place de l'âme, le lieu central de cette identité. Peut-être qu'on peut d'abord aborder cette question de la connaissance du corps qui s'approfondit en même temps que cet intérêt pour le corps apparaît. Et c'est lié notamment, Georges Vigarello, au progrès de la médecine.
Alors, c'est lié, vous avez raison, c'est lié au progrès de la médecine. C'est lié à la manière dont la médecine nous conduit à nous interroger sur un certain nombre de phénomènes que nous vivons intérieurement. On voit très bien dans les textes des médecins, dans la deuxième moitié du 18e, à la façon dont ils sont attentifs aux symptômes, à la manière dont le malade parle, voyez, à la manière dont il évoque un certain nombre de faits qu'il ressent intérieurement. Je pense que c'est pas seulement lié à ça. Je pense qu'il y a une autre raison qui est beaucoup plus souterraine et qui a, en un certain sens, beaucoup plus marquante. C'est le fait que l'individu se sent brusquement, au XVIIIe siècle, livré, disons le mot, à lui-même. C'est-à-dire qu'il a beaucoup moins de recours à ce que moi j'appellerais la surnature. Il y a un recul du religieux. Il y a la façon dont l'individu existe de plus en plus à travers sa propre enveloppe, à travers sa propre limite. Et c'est plus, en quelque sorte, l'âme liée directement au divin, voire le texte de Descartes. Je pense, donc je suis. Mais je pense parce que ce fragment de pensée me renvoie à quelque chose qui est l'ordre de l'âme, et l'âme me renvoie à un dieu. Vous voyez? Donc c'est le dieu qui m'asserte finalement mon existence. À partir du moment où le dieu recule, c'est plus lui qui asserte mon existence. Qu'est-ce qui asserte mon existence? C'est ce que je sens. C'est la façon dont j'existe. C'est la façon dont je vis. D'où cette bascule majeure qui, à mon sens, n'a pas toujours été prise en compte comme elle mériterait de l'être. Cette bascule majeure où, effectivement, Descartes, au milieu du XVIIe siècle, dit « je pense, donc je suis », et où Bernardin de Saint-Pierre, dans la deuxième moitié du XVIIIe, élève de Rousseau, dit « je sens, donc je suis ». La bascule est là. Et je sens pas seulement le monde extérieur. Évidemment que je le sens, le chaud, le froid, les climats, les mouvements, etc. Mais le monde intérieur, je sens ma propre intériorité.
Alors je voudrais qu'on écoute, Georges Vigarello, l'acteur Stéphane Dos, nous lire une lettre du physicien Luigi Galvani, qui écrit de Bologne en 1790.
Je disséquais une grenouille et je la préparais. Ensuite, me proposant toute autre chose, je la plaçais sur une table sur laquelle se trouvait une machine électrique. La grenouille n'était aucunement en contact avec le conducteur de la machine. Un de mes aides vint approcher par hasard la pointe d'un scalpel des nerfs cruraux internes de cette grenouille et les toucha légèrement. Et tout aussitôt, tous les muscles des membres inférieurs se contractèrent comme s'ils avaient été subitement pris de convulsions tétaniques violentes. Cependant, une personne étant là, présente pendant que nous faisions des expériences avec la machine électrique, crut remarquer que le phénomène ne se produisait que lorsque l'on tirait une étincelle du conducteur. J'approchais donc moi-même la pointe de mon scalpel, tantôt de l'un, tantôt de l'autre des nerfs cruraux, tandis que l'une des personnes présentes tirait des étincelles de la machine. Le phénomène se produisit exactement de la même manière. Au moment même où l'étincelle jaillissait, des contractions violentes se manifestaient dans chacun des muscles de la jambe, absolument comme si ma grenouille préparée avait été prise de tétanos.
Qu'est-ce que Luigi Galvani nous raconte ici de ce nouveau rapport au corps animal en l'occurrence ?
Je pense que c'est la suite de ce dont nous avons parlé. Il y a une prise de conscience, je ne veux pas insister, mais ça me paraît vraiment très important, il y a une prise de conscience du phénomène de la sensibilité, de l'enjeu de la sensibilité, de l'épaisseur de cette sensibilité. Il y a une prise de conscience, n'y revenons pas, deuxième moitié du 18e. Or, à partir de là, sans doute, à partir des médecins, mais aussi à partir des hommes de culture, à partir de là, la question porte sur qu'est-ce que c'est que cette sensibilité. Et des parties du corps deviennent plus importantes que d'autres par rapport à des périodes précédentes, entre autres les nerfs, les conductions, ce qui crée le courant.
Désormais, on ne parle plus d'humeur.
Alors désormais, par exemple, c'est absolument fondamental ce que vous venez de dire, désormais on ne parle plus d'humeur, parce que les humeurs étaient ce qui est le lieu central du corps, vous voyez, quand vous vous coupez, ça coule, quand vous toussez, etc., quand vous êtes malade, vous avez des maux de gorge, et quand vous mourrez, toutes les humeurs s'en vont. Donc intuitivement, pendant très longtemps, l'idée a été que ce sont les humeurs qui conduisent le corps, le teint aussi, hein, on distingue les tempéraments à partir du teint.
Bon. Désormais, ce sont les fluides nerveux.
Voilà, et puis désormais, pour toutes les raisons que nous venons d'indiquer, ce sont les fluides nerveux, ce sont les courants, ce sont les stimulations. Ça a des conséquences considérables, y compris sur l'hygiène, y compris sur la façon de se comporter, etc. Mais revenons à Galvani. Donc leur question à des auteurs comme Galvani et bien d'autres, c'est qu'est-ce qui se passe, vous voyez ? Et l'obsession du courant renvoie à une découverte qui est très importante dans la deuxième moitié du 18e, c'est l'effet de l'électricité. L'électricité, c'est plus inconnu. Mais l'effet devient quelque chose qui est l'objet d'une curiosité. Et si on poursuit au-delà de Galvani, si on poursuit et que on s'interroge sur les physiologistes des années 20 du 19e, Magendie, quelques autres, Charles Bell, etc., que mettent-ils à l'évidence ? Quelque chose qui est encore plus important, c'est la différence entre les nerfs moteurs et les nerfs sensibles. Et Magendie, un des premiers, Bell l'a contesté, mais on va pas rentrer dans les débats qui n'ont aucune importance pour notre objet. Magendie, un des premiers, en coupant des parties très précises des nerfs vertébraux, se rend compte que dans un cas, il interdit à l'animal de sentir, et dans d'autres cas, selon ce qu'il coupe, il entraîne le fait que l'animal ne peut plus bouger. Donc il distingue pour la première fois des nerfs sensibles et des nerfs moteurs. Mais si vous distinguez des nerfs sensibles, qu'est-ce que vous faites ? Vous commencez à vous interroger sur la façon dont les individus s'éprouvent. Voyez ? Et donc ça s'enrichit, c'est-à-dire qu'on passe de propos qui sont des propos que je qualifierais moi de littéraires et de culturels à des propos qui sont de plus en plus savants.
On cherche alors, Georges Vigarello, à comprendre les sensations éprouvées, on se lance dans des descriptions minutieuses, et l'économiste Adam Smith cherche à théoriser ces impressions physiques. Il tente notamment de comprendre ce que produit sur le corps l'observation du mouvement d'un autre corps, c'est-à-dire le mécanisme de mimétisme qui est à l'œuvre.
Absolument. Alors c'est très important, et effectivement ça a des conséquences, vous voyez, c'est très riche comme problème. Ça a des conséquences sur la question des relations, des problèmes économiques. Je ressens ce que l'autre peut éprouver, je suis sensible à sa pauvreté, je suis sensible à sa maladie, et c'est la première fois que des indications sont données, d'autant qu'elles sont données à partir d'exemples très concrets. Lorsque je regarde un équilibriste qui perd l'équilibre, qu'est-ce qui se passe dans mon corps ? Je me tends. Lorsque je vois quelqu'un sur le bord de la route qui a une maladie et dont l'aspect du bras est purulent, qu'est-ce que je ressens ? Quelque chose qui interpelle.
C'est ce que décrit
physique.
Adam Smith.
Ce que décrit Adam Smith dans la deuxième moitié du 18e. Donc dans cette deuxième moitié du 18e, il y a tout un ensemble de phénomènes qui sont d'une richesse à mes yeux considérable, qui mettent en jeu le corps sur un nouveau mode et qui posent à la fois des questions de sociabilité et des questions d'identité, c'est-à-dire des questions de psychologie.
Et parallèlement à ce phénomène, on observe au XVIIIe siècle toujours un nouvel attrait pour le récit de soi. On se raconte dans le secret de la confidence, une confidence qui n'est autre qu'une confession laïcisée, Georges Vigarello.
Alors exactement, on peut dire que, je suis très sensible à votre propos, on peut dire que ces modes de confidence s'approfondissent avec le grand projet de Rousseau, revenons à Rousseau, qui est celui des confessions. Mais quand on regarde avec attention les confessions, on voit bien que c'est une sorte de plaidoyer pro domo, c'est un plaidoyer fait pour les autres. Néanmoins, il entre quand même dans le récit de sa propre sensibilité. Ce qui se passe en revanche un tout petit peu plus tard, à mon avis, au début du 19e siècle, c'est cette nécessité éprouvée par un certain nombre d'auteurs pour dire ce qu'ils éprouvent. Et pourquoi cette nécessité? Non pas pour la communiquer, mais pour mieux se comprendre. Donc des auteurs comme Cabanis vont dire, Cabanis écrit au tout début du 19e siècle, mais c'est pas le seul, Maine de Biran, Benjamin Constant, etc. Voilà pourquoi je confondais, voilà pourquoi je me disais que peut-être c'était de Benjamin Constant tout à l'heure, voyez. Mais revenons à ces auteurs, que disent-ils? Ils disent, il faut que je laisse émerger dans ma propre écriture ma propre sensibilité. Parce que ma propre sensibilité va me dire, par exemple, que j'ai une crispation en apprenant telle nouvelle, ou que j'ai un malaise en devant faire tel discours. Et ce malaise, je peux plus ou moins le localiser. Et en même temps, je peux aussi en évoquer l'intensité. Mais ça ne concerne que moi, ça ne concerne pas les autres. Pour revenir à Benjamin Constant, lui-même dit, si on lit mon journal, on croit que je suis fou. Mais en revanche, c'est très important pour lui. Parce que c'est une façon d'approfondir sa personne, de se rendre compte de ses propres dérives et, au bout du compte, de mieux les contrôler. Donc, quelqu'un comme Cabanis est le premier à dire la chose suivante, et je trouve qu'elle est absolument fondamentale. Cabanis dit la chose suivante. Condillac, qui a écrit dans les années 60 du 18e siècle ce fameux texte sur les sensations où il montre que l'individu se construit à partir d'une ouverture des sensations, mais des sensations venues de l'extérieur. La fameuse statue dont on ouvre progressivement les divers lieux de sensibilité. Mais ce sont des lieux extérieurs. Et même la statue, il fera dire à sa statue, pour que je puisse me connaître intérieurement, il faut que je me touche. Et donc il y a bien quelque chose qui est dehors du contact. Or Cabanis va dire, si j'arrive à faire la même chose que Condillac, mais en m'interrogeant sur ma sensibilité interne, c'est le premier à vraiment exploiter la notion de sensibilité interne, au sens de la création d'un projet psychologique, si je parviens à percevoir de la même façon que la statue, mais en me tournant vers l'intérieur, je finirai par mieux me connaître. Et là, on voit l'émergence, à mes yeux, et c'est très important, on voit l'émergence d'un projet psychologique, voyez, mais qui passe par le corps. Alors évidemment, avec les décennies, ce projet psychologique ne passera plus par le corps. Il passera par mes malaises, par mes tensions, par mes crispations. Mais le fait que ce projet passe par le corps me paraît décisif, parce que le corps est bien perçu comme le premier lieu d'identité.
Alors comment est-ce que cette intimité se renforce? On a parlé de ce 18e siècle, de cette culture de l'aveu qui commence à se développer. On joue à cacher, à exposer tout au long de ce siècle des Lumières. Et désormais, la porte de la chambre se verrouille.
L'histoire de la chambre du roi est très très intéressante parce que la chambre du roi est publique. C'est le corps public du roi qui se met en scène, mais elle n'est pas intime. Quand le roi veut faire l'amour avec sa femme, il le faisait, ou avec sa maîtresse en titre, il en avait une en général. Il va dans leur chambre, il va dans la chambre de madame. Et il y a une chambre qui va prendre énormément d'importance à la fin du règne de Louis XIV, qui a duré longtemps, la chambre de madame de Maintenon. Et la chambre de madame de Maintenon préfigure la chambre bourgeoise parce que elle n'est pas seulement une chambre conjugale et amoureuse, elle est aussi une chambre où on travaille, où on lit.
L'historienne Michèle Perrot dans La Fabrique de l'Histoire sur France Culture, d'un lieu où l'on dort et où l'on reçoit, la chambre devient cet espace privé où l'on peut se retrouver seul avec soi-même, Georges Vigarello.
Le texte de Michèle Perrot, d'abord, est très beau. C'est un texte que je trouve à la fois historique et littéraire et je considère que c'est une œuvre majeure. Ce qu'on peut peut-être ajouter, c'est que plus cette exigence se déploie et plus vous allez voir dans les châteaux eux-mêmes construire des appartements qui sont des appartements privés. Et ça, c'est Louis XV qui va l'installer. Vous voyez, et donc, on voit ces petits appartements, selon le mot de Louis XV, on les voit se développer avec ce que disait Michèle Perrot, une diversification progressive de plus en plus grande d'activités, la lecture, évidemment la chambre intime, si vous voulez, mais aussi la chambre où il y a le jeu qui se déroule à travers quelques intimes très, très limités. Il y a aussi la chambre de repos, etc. Donc, on voit que l'exigence dont je parlais tout à l'heure, à savoir s'interroger sur soi et s'interroger sur la façon dont le corps est éprouvé. Qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'il y a des lieux qui progressivement s'installe. Vous voyez, ça se diversifie. C'est-à-dire que l'intérieur du corps appelle aussi, ce qui est extraordinaire, appelle des extérieurs, appelle des installations qui sont des installations de l'intimité.
C'est aussi l'apparition d'une nouvelle pièce, le boudoir,
bien sûr,
défini par le dictionnaire de l'Académie française en 1789 comme un petit cabinet où l'on se retire quand on veut être seul. C'est l'espace où l'on peut véritablement explorer cette relation avec soi-même. C'est ce que l'on cherche.
Et absolument. Et ça crée quelque chose qui est très neuf et que je trouve par certains côtés très beau et dont nous sommes aujourd'hui les enfants, c'est ce qui s'appelait à cette époque la lecture de fort privé. C'est-à-dire que c'est une lecture qui est faite dans la solitude, sans du tout bouger les lèvres, avec un pur travail d'intériorité. Alors ça, c'est un travail intellectuel, bien entendu. Mais il y a aussi tout ce travail physique dont je parlais tout à l'heure.
C'est aussi ce qui explique pourquoi le miroir se rencontre de plus en plus dans les intérieurs bourgeois à Paris et dans les grandes villes pour permettre cette réflexivité.
Alors, le miroir, c'est un sujet que je trouve également très fort et qui a ses particularités. Alors, pendant très longtemps, pour des raisons qui sont liées d'ailleurs à l'économie que vous connaissez bien, pendant très longtemps, le miroir ne peut pas être trop large, trop vaste, parce que il est compliqué à construire, il est extrêmement coûteux, même si, dans des cas précis, comme évidemment la Galerie des Glaces, on voit des miroirs importants. Les miroirs importants qui commencent à permettre une vue de l'ensemble du corps n'apparaissent que tout début du 19e. Ce sont les psychés. Mais pour revenir à ce que vous disiez, effectivement, les psychés sont très importantes parce que, à la fois, elles vous permettent de prendre conscience de votre apparence dans sa globalité, ce qui n'était pas le cas jusque-là, mais elles vous permettent aussi d'effectuer quelques pas devant cette apparence. Elles permettent non pas seulement de jouer sur la physionomie, mais de jouer sur l'attitude globale. Donc, le miroir joue, du coup, comme étant un facteur nouveau dans la conquête de l'intime et dans la conquête de l'identité.
Et alors, il y a un autre détail que vous relevez, Georges Vicarello, qui est intéressant. On appelle désormais la montre l'horloge du corps. L'horloge mécanique s'est miniaturisée et privatisée.
Bien sûr, alors, l'horloge c'est privatisée. Elle ajoute en quelque sorte à ce que nous venons d'évoquer concernant l'espace. Elle ajoute quelque chose qui est également de la privatisation et qui est de l'ordre du temps.
Alors, être seul devient un privilège, et c'est ce que nous explique la sociologue Monique Eleb.
Quelques aristocrates vont au XVIIe siècle, ou au XVIe, XVIIe siècle, commencer à revendiquer de pouvoir être seul. Donc il faut imaginer que ces maisons étaient pleines de gens, que tout le monde pouvait aller partout, qu'il n'y avait pas de couloir encore, que les escaliers, comme je le disais tout à l'heure, aboutissaient aux chambres, et que donc cette intimité, la possibilité de pouvoir fermer une porte et d'être seul, était un exploit. Les pièces ouvraient les unes sur les autres. Donc, pour passer de la salle à la chambre, et de la chambre à la cuisine, on n'avait qu'une porte qui était souvent centrale. Cette circulation n'était pas doublée. On va donc voir apparaître le doublement de la circulation au XVIIe siècle. Et ceux qui revendiquaient d'être seuls vont enfin pouvoir le faire, notamment vis-à-vis des domestiques. Quand dans les pièces de Molière, on voit les domestiques qui déboulent au milieu de la conversation des amoureux, etc., c'est pas lié à l'unité de temps ou de lieu du théâtre, pas du tout. C'est que dans ces maisons-là, tout le monde était avec tout le monde.
L'apparition du couloir qui va illustrer peut-être ce nouveau rapport à l'intime à partir du début du 19e siècle, Georges Vicarello.
Alors, ce sont des questions plus importantes qu'on ne le croit. Parce que spontanément, on peut penser que la maison accroît ses propres disponibilités parce que les personnes qui en sont les possesseurs sont plus riches, ont plus d'exigences de décor, etc. Or, le problème n'est pas du tout un problème de richesse. Le problème, c'est celui qui porte sur la construction de l'intimité. C'est pas par manque, en quelque sorte, de finances que le Versailles de Louis XIV est un Versailles qui donne une importance considérable au public. C'est pas par manque de finances. C'est par un dispositif psychologique qui n'est pas encore celui qu'aura Louis XV et qu'auront les bourgeois à la fin du XVIIIe et surtout au XIXe. Vous voyez, on le voit très bien. Bon, on avait travaillé avec Nadège Lennery d'Agen sur la question de la toilette. On le voit très bien à travers la question de la toilette. Progressivement s'impose le fait que la toilette ne peut absolument pas supporter, j'entends le fait de se laver le visage ou même de s'habiller, ne peut absolument pas supporter la présence d'un tiers, y compris d'un domestique.
On va reparler de la toilette dans un très court instant.
In my diary, a lot of things I'm gonna write about the moon. In the lonely night, in my diary, it's gonna tell all about you, tell of all your charms and the things you do. Diaries are made of things you do and of the people we've met. Oh, but my diary is about you, and I don't want to forget in my diary. Picture with words, so the world can understand. Oh, so they can understand. So the world can understand.
Écoutez France Culture, entendez-vous l'écho, Tiphaine de Rocchini.
C'était In My Diary d'Etta James. Nous parlons avec Georges Vigarello de la naissance de l'intime et de la perception du corps. Et l'intimité, l'importance de l'intimité se traduit par ce droit au secret qui apparaît. Georges Vigarello, cette notion de secret, elle est essentielle. C'est ce qui commence à séparer l'homme public et l'homme privé.
Oui, il y a un espace intérieur qui n'a pas à se partager. Et on le voit d'ailleurs très bien dans un certain nombre de romans. Vous savez, le père Goriot, par exemple. Le père Goriot a une intériorité qui est extraordinairement turbulente. Et il se garde bien d'en faire part à la pension Vauquer, à qui que ce soit. Et en même temps, il en meurt, cette intériorité, tellement elle le gagne, tellement elle le ronge. Ça, je trouve que c'est très neuf au 19e, cette sorte d'espace intérieur qui grandit de façon indéfinie et qui finit par brûler les individus, vous voyez. C'est très beau, ça, comme problème.
Et cette importance du secret et du respect de l'intimité s'illustre dans le principe du secret de la correspondance qui apparaît à la fin du 18e siècle, même si la censure de l'État va quand même continuer à s'exercer.
Oui, bien sûr. Et cette correspondance, elle va de plus en plus faire place à une façon de livrer un certain nombre d'indications qui sont des indications qui ne se partagent pas, qui ne se partagent qu'avec l'interlocuteur. Mais je pense que quand on parle de tout cela, il me semble qu'on ne peut pas éviter d'évoquer un nouveau genre littéraire qui apparaît au début du 19e siècle, vraiment dans les années 20, dans les années 30. C'est un nouveau genre littéraire qui se distingue des essais de Montaigne, qui sont quand même très fondamentaux, parce que les essais de Montaigne marquent une nouvelle manière, finalement, pour l'individu de la Renaissance, de s'affirmer, d'exister, de s'interroger sur lui. Mais en s'interrogeant sur lui, Montaigne s'interroge sur l'homme. Il s'interroge pas forcément sur une personnalité spécifique. Rousseau, je ne veux pas y revenir, les confessions, c'est également très important, mais c'est une façon de se défendre, c'est une façon de donner une image publique. Alors que le journal intime, on l'a déjà évoqué tout à l'heure, mais je pense qu'il faut y revenir, c'est une démarche littéraire qui consiste à faire exister ce qui n'appartient qu'à soi et qui ne se publie pas. Et ce qui n'appartient qu'à soi fait émerger à la fois de la sensibilité corporelle et bien entendu aussi de la sensibilité psychologique. C'est un genre neuf qui date des années 20, qui est partagé par plusieurs auteurs, de Stendhal à Mendebiran, de Benjamin Constant et bien d'autres.
Alors, on va parler de Benjamin Constant dans un instant, mais d'abord pour rester un tout petit peu sur ces lettres qui sont le lieu d'expression d'une intimité sentimentale et spirituelle. Cette intimité-là, elle s'exprimait jusqu'alors davantage dans la fiction, Georges Vigarello.
Alors, elle s'est exprimée dans la fiction ou elle s'est exprimée dans les faits, dans des anecdotes. Vous voyez, par exemple, la littérature de Madame de Sévigné, qui est extrêmement importante, qui est fondamentale pour comprendre le XVIIe siècle, la littérature de Madame de Sévigné évoque des rencontres, des faits, elle invoque des inquiétudes sur la vie de sa fille, elle invoque des inquiétudes sur elle-même, elle raconte comment elle recourt à un certain nombre de produits pour améliorer sa santé, etc. Mais elle ne s'interroge pas sur la façon dont sa propre existence intérieure peut l'inquiéter ou peut la ronger. C'est une façon de faire exister ce qui, au bout du compte, demeure de l'extériorité.
La différence entre ces lettres du XVIIe, du XVIIIe, du XIXe siècle, c'est peut-être cette mise en scène de l'intime qui évolue, cette théâtralité.
Voilà. Qui évolue. Alors, vous voyez, l'image que je voudrais donner, c'est plutôt l'image d'une sorte de bulle dont le corps est le représentant. Et cette bulle va progressivement faire place à quelque chose qui est du dehors, du dedans. Avec, en plus, c'est très bien montré dans certains textes d'Alain Corbin, par exemple, avec de plus en plus des aveux sur sa propre sexualité, sa propre intériorité, d'où, d'ailleurs, également un autre genre, qui est le journal médical, le journal de médecine, le médecin demandant à son patient de raconter ce qu'il éprouve, de raconter ce qu'il vit. Et c'est à partir de ce que lui dit son patient que le médecin va enrichir en quelque sorte la possibilité d'interpréter.
C'est Laennec le premier qui demandait à ses patients de décrire leurs sensations physiques.
Voilà. Et puis ensuite vous avez l'allemand, etc. Et Laennec, alors ce qui est très important dans Laennec, c'est que il parvient à distinguer selon ce que lui dit son patient, ou selon ce qu'il perçoit sur l'intériorité de son patient, il parvient à distinguer s'il y a phtisie ou s'il n'y a pas phtisie. C'est quand même fondamental.
Et alors, comment fait-il pour le distinguer?
Eh bien, parce que, alors, c'est en deux mots, parce que Laennec sait distinguer des touts dont il voit ensuite la correspondance, je suis désolé de dire les choses comme ça, mais c'est vrai, sur le cadavre. Et donc, il voit comment des touts ont des correspondances qui s'inscrivent finalement dans le corps. Et c'est là qu'il va pouvoir dire ce type de tout, ah ben non, ce type de tout a basculé, vous voyez ? Avec en plus certains symptômes de fièvre, etc. Et là, il s'appuie bien sûr sur ce qu'il entend, mais il s'appuie aussi sur ce que le malade lui dit.
Alors vous évoquiez tout à l'heure Benjamin Constant, vous évoquiez le journal. Écoutons justement un extrait du journal de Benjamin Constant, donc cet écrivain né à Lausanne en 1767.
Alors nous sommes le 6 janvier 1803, ne l'oublions pas. Je me sens dans une de ces crises du cœur et de l'imagination qui ont plus d'une fois bouleversé toute mon existence, brisé toutes mes relations, qui m'ont transporté dans un monde nouveau où il ne me restait celui que j'avais quitté que quelques souvenirs assez effacés, mais plutôt tristes, des ennemis qui nécessitaient des explications fatigantes, mais en général un vif sentiment de délivrance et la conviction que j'avais bien fait en changeant de plan de vie. Il ne faut pas agir légèrement toutefois. J'ai 35 ans passés, je ne suis plus riche d'avenir. La jeunesse n'est plus là pour excuser des inconséquences, et surtout je n'ai plus en moi cette force défensive et cet amour de moi-même qui m'aidait à me justifier et à me faire connaître. Mon sang circule aujourd'hui avec assez de vivacité, mais assez d'insouciance sur mon sort, beaucoup de défiance des autres, ont rendu un découragement plus apathique que douloureux l'état habituel de mon âme. La peur de l'ennui est mon impulsion dominante, et mon grand danger en changeant de situation, c'est précisément l'ennui. Ma situation actuelle est évidemment fausse, mais elle a ses côtés brillants. Ce sont les premières vraies confessions qu'on ait jamais lues. Non, il me semble que si on les compare, nous allons revenir peut-être bientôt à Rousseau.
Oui.
Ça me paraît tellement plus net, pleinement plus simple. Les questions pratiques sont tellement mélangées aux questions de cœur, et c'est tellement vrai à chaque instant chez Constant,
oui,
que ça dépasse peut-être la stratégie amoureuse pour devenir l'aveu, simplement. Là, c'est un homme qui vraiment mélange et parle aussi nettement de sa situation financière et de sa situation dans le monde que de sa situation intérieure. Or, qu'est-ce que nous voyons de notre part? Nous voyons avant lui Rousseau qui, évidemment, parle beaucoup de son cœur, mais feint toujours, malgré tout, de le placer bien avant la situation mondaine. Et nous verrons après Stendhal qui avoue beaucoup de choses, mais qui est un peu un fanfaron de vice. Il me semble que chez Constant, nous avons quelque chose d'autre, de beaucoup plus naturel, beaucoup plus...
Mais Constant vous paraît moins joué. Enfin,
il me paraît pas joué. Ce grand joueur, justement, ne me paraît plus jouer quand il écrit son journal.
Un grand joueur qui ne joue plus lorsqu'il écrit son journal. Voilà comment l'écrivain Roger Nimier désigne Benjamin Constant. Alors, qu'est-ce que cet extrait, donc, qui est lu et commenté par Nimier, vous inspire, Georges Vigarelli?
Ça fait partie de ces textes qui font rupture avec le début du 19e. Et quelle est la rupture? L'aveu de quelque chose qui est de l'ordre d'une vulnérabilité, qui est de l'ordre d'une faiblesse, qui est de l'ordre d'un manque. Et d'un manque que, bien sûr, on ne va pas fanfaronner en public, mais que l'on s'avoue entre soi, et qu'éventuellement, on peut avouer à des intimes. Mais ce qui est important dans ce texte aussi, c'est qu'il y a une sorte de curieux mélange entre le physique, le sang, vous voyez, le sang, l'apathie, la faiblesse quasi physique, 35 ans, la vieillesse, et en même temps, quelque chose qui est dans du psychologique. Il mentionne l'âme, il mentionne une façon de perdre en stimulation, mais c'est de la stimulation plutôt morale, psychologique. Donc, il y a un croisement des deux. Dans d'autres textes de la même période, on peut voir un physique beaucoup plus manifesté entre soi et soi. Je pense à des textes de Maine de Biran en particulier. Je pense à des textes de Cabanis, ce qui n'enlève rien à l'intérêt du texte de Benjamin Constant, bien entendu. Mais vous voyez, c'est bien. Il y a une façon d'avouer sa propre faiblesse que l'on n'osait pas mettre en évidence auparavant.
Et vous partagez cette idée selon laquelle la sincérité de Benjamin Constant serait plus importante que celle d'un Rousseau ou d'un Stendhal?
Sans aucun doute. Sans aucun doute, parce que, comme, vous voyez, Rousseau se défend. Le texte, Les Confessions, c'est un texte magnifique. En plus, écrit avec une littérature absolument flamboyante. Mais c'est un texte de défense. C'est un texte où il essaie de justifier, finalement, son existence. C'est pas l'objet de Benjamin Constant. L'objet de Benjamin Constant, c'est comprendre. Comprendre, en particulier, sa propre faiblesse. Vous voyez, c'est quand même, c'est un changement radical. C'est ça qui fait exister le journal intime et qui le légitime.
Alors le journal, c'est ce qui permet de s'écrire à soi-même. Et voilà. Le journal ne sera pas forcément lu.
Exactement.
Et c'est cette mise à distance de soi qui va permettre à l'individu moderne de se constituer. C'est ce que vous
Exactement.
Expliquez, Georges Vigarelli.
Je pense que c'est à partir de là que l'on voit un versant vraiment très fort de l'individu moderne. Mais en même temps, on le voit aussi dans des efforts que la littérature va faire, qui n'est pas forcément présente, sauf dans certains textes. Comme je le disais tout à l'heure chez Balzac, c'est des années 30-40, mais qui est plus présente déjà dans les lettres, par exemple, de Flaubert. Flaubert avoue dans ses lettres sa difficulté, ses crises nerveuses. Il y a des passages magnifiques dans des lettres où il dit, au fond, quand je circule à cheval, je me sens aussi bien homme que femme, je me fonds avec les arbres, etc. Il y a une sorte d'imaginaire et en même temps d'accès à soi, qui est vraiment très important et qui mêle le physique et le moral. J'ajoute, ça entraîne aussi de nouvelles questions. Chez les psychiatres, par exemple. Les psychiatres vont dire, je pense à Brousset et à quelques autres, Pinel, bien sûr, Esquirol, les psychiatres vont dire, mais finalement, la folie, c'est peut-être une façon de se ressentir, ressentir son corps autrement. Vous voyez, il y a cette sorte de focalisation sur l'intériorité, c'est bien parce qu'ils dérivent dans leur propre sensibilité intérieure que leur identité est totalement bousculée, pour ne pas dire ravagée.
Et on peut distinguer, Georges Vigarello, au cours du 19e siècle, les écrivains qui se livrent sans masque d'un côté, des écrivains dont la sincérité est plus ou moins une posture.
Bien entendu. Enfin, vous le dites très bien, il y a une façon de jouer. On peut parfaitement jouer l'autre personnage, si vous voulez. Mais en même temps, je trouve
que... Parce que la connaissance de soi, pardon, je vous interromps, mais elle nécessite...
Je vous en prie.
Justement, cette...
Un travail considérable.
Cette sincérité.
C'est un travail considérable, un travail de sincérité. Mais en même temps, chez l'homme de lettres, on peut très bien constater que certains personnages s'interrogent de façon tout à fait nouvelle sur leur propre intériorité et ne renvoient pas à la façon dont l'auteur se situe ou se pense lui-même. Vous voyez, simplement, la manière dont l'auteur met en scène le personnage montre très précisément cette exigence nouvelle. Je pense par exemple dans des textes de Zola que je trouve personnellement très intéressants, qui sont plus tardifs, qui sont des années fin des années 70 et des années 80 du 19e siècle. Dans certains textes de Zola, je pense à un passage très précis où un personnage prie devant une église. Et que décrit Zola? Eh bien, le sentiment que le personnage s'élève de plus en plus, mais physiquement. s'élève en hauteur, vous voyez. Donc, au fond, il traduit sa propre sensibilité intérieure, ce qui était tout à fait inexistant auparavant. Si je prends des ascensions auparavant, par exemple, certaines ascensions du XVIIe siècle, vous voyez, le passage de Cyrano de Bergerac, le passage d'un astre à un autre. Que dit Cyrano de Bergerac ? Rien sur la façon dont il s'éprouve. Absolument rien. C'est pas un objet. Il dit simplement qu'il se retrouve sur la Lune. Vous voyez ? Cyrano de Bergerac, deuxième moitié du XVIIe. C'est un texte magnifique. Je suis pas en train de dire qu'il n'a pas d'intérêt. Il a un intérêt absolument majeur. Il est superbe. Mais
on voit bien
il n'a pas pour objet ce dont je viens de parler lorsque Zola met en scène cette fameuse jeune femme qui est en prière.
Alors Benjamin Constant est l'un des premiers écrivains romantiques du XIXe siècle. Comment les romantiques, Georges Vigorello, vont-ils pousser plus loin encore cette expression de soi ? Est-ce que vous diriez qu'on assiste à une forme de systématisation de ce rapport au sentiment intérieur ?
Je ne sais pas si on peut dire systématisation. Mais en tout cas, à l'évidence, cette présence de l'intériorité est beaucoup plus grande qu'elle ne l'était auparavant. Elle se voit dans des romans. Il y a une manière Flaubert, mais on pourrait citer d'autres romanciers, hein. On voit la façon dont il essaie d'évoquer la manière dont Emma Bovary se ressent. Mais il y a d'autres auteurs que je trouve très intéressants. Janin. Jules Janin, par exemple, raconte, dans les années 30 du 19e siècle, raconte la façon dont il éprouve le bain. Et c'est plus du tout le bain ancien. C'est un bain complètement nouveau où il raconte la façon dont son corps est ballotté par la vague, vous voyez, avec une sorte de vertige qui était totalement inexistante auparavant. Prenons notre exemple, l'exemple de Quincé que je trouve passionnant. Quincé raconte le sentiment de la vitesse dans les années 20-30 du 19e éprouvé sur une malle poste, c'est-à-dire une sorte de diligence dont l'objet est d'aller le plus vite possible. Malle poste, la poste, il fallait vite, vous voyez. Bon. Donc, il se décrit comme étant à côté du cocher et comme éprouvant le tressautement de la fameuse malle poste, mais comme éprouvant surtout le vent qui vient lui en quelque sorte frapper son propre visage et l'obligeant à se raidir et l'obligeant surtout à éprouver un plaisir immense, une découverte majeure de la vitesse. Que disaient auparavant les auteurs sur la vitesse ? Très peu de choses, vous voyez. Mais vous avez aussi des exemples de Mademoiselle de Beaupin dans Théophile Gautier, Mademoiselle de Beaupin à cheval aussi, son habit qui se raidit, elle ressent le vent. Ce sont des horizons complètement neufs, mais qui sont très liés à la manière dont on s'interroge de façon inédite sur la perception intérieure du corps.
Et à la fin du XIXe siècle, Georges Vigorello, de nombreux écrivains racontent aussi comment ils éprouvent l'effet sur leur corps des drogues.
Alors voilà, là c'est un autre problème tout aussi intéressant, c'est que à partir du moment où cette intériorité devient un lieu d'interrogation, la tentation, c'est de voir comment on pourrait l'éprouver autre, comment on peut dériver. Et là, vous avez évidemment toute une littérature. Le club des Hachichins, je reviens à Théophile Gautier, c'est très important. N'oublions jamais Baudelaire. Baudelaire qui raconte l'effet du vin, qui raconte l'effet de l'opium, du hachiche. Vous avez aussi des psychiatres qui vont s'interroger sur l'amorce de la dérive en consommant le hachiche. Vous voyez, Moreau de Tours, qui consomme du hachiche et qui va nous dire, bah oui, mais la folie, c'est peut-être ça. Vous voyez. Donc là, il s'installe vraiment, non seulement s'installent de nouvelles sensations, mais s'installent de nouveaux versants où on peut étudier les sensations en question.
Je viens et où de parler on repousse les limites toujours plus loin.
Toujours. Oui, voilà. Et en même temps, des jeux aussi. Vous voyez, la vitesse, le bateau, le cheval, etc. Tout ça entraîne de nouveaux types d'interrogations qui, à mes yeux, sont extrêmement importants parce qu'ils sont au cœur de notre propre conscience actuelle. Je pense qu'aujourd'hui, la manière dont nous interrogeons notre propre intériorité a pour naissance ces préoccupations qui sont celles du 19e et dont je viens de parler.
Alors la nouvelle attention au corps passe aussi par le soin du corps et un nouveau rapport à la propreté qui émerge lui aussi au 18e siècle, Georges Vigorello.
Le rapport à la propreté, c'est effectivement une question qui est assez centrale parce qu'elle renvoie à l'intimité, bien sûr. Mais on peut dire que l'exigence, elle traverse le temps. Et vous avez un exemple qui n'est pas du tout, je dirais, inaugural. Mais vous avez un exemple qui est intéressant, qui date des années 80 du XVIe siècle cette fois, chez Montaigne, lorsque Montaigne dit « je ne supporte pas ma chemise lorsqu'elle a de la sueur ». Donc on peut dire, vous voyez, il y a quelque chose qui naît. Bon. En revanche, je crois que ce qui s'est progressivement approfondi, et que l'on voit surtout exister aujourd'hui, c'est cette façon d'évoquer la propreté en insistant sur une manière nouvelle de s'éprouver. Vous voyez, la propreté, ça renvoie aujourd'hui à une manière plus détendue, plus intériorisée, plus, au fond, apaisée d'exister. Et je pense qu'elle pousse, au contraire, la propreté contemporaine, elle pousse vers le psychologique. Vous voyez, façon de se projeter autrement, si vous voulez. Et donc, les produits qui sont utilisés, ce sont pas seulement des savons ou des savonnettes, mais ce sont des produits qui provoquent du parfum, de l'odeur, qui provoquent une ambiance. Ça, c'est très important. C'est une ambiance à la fois qui croise, vous voyez, extérieur, mais qui croise l'intérieur, façon autre d'exister.
Ce que vous expliquez très bien, Georges Bigarello, c'est que à partir du XVIIIe siècle, on utilise davantage l'eau et que dans la seconde moitié du XVIIIe siècle apparaît peu à peu cette pièce dévolue à ces soins du corps.
Voilà. Alors, on renvoie ce dont nous parlons. Vous voyez, ce qui est important et qui est à mes yeux très, très intéressant, c'est qu'on renvoie en permanence entre un échange entre l'intérieur du corps et l'extérieur, la façon dont l'exigence intérieure crée finalement de l'espace. Et bien sûr, cet espace, qui est l'espace de la toilette, il va surtout s'affirmer au 19e en fait. Il naît, vous avez raison, il naît au 18e, hein, il y a quelque chose qui se ferme, si vous voulez. Mais la fermeture, son exigence, la manière dont on en parle, la manière dont on la met en scène, c'est vraiment un objet du 19e siècle. Et je dirais, c'est encore plus un objet contemporain.
Vous le disiez, le soin du corps, mais aussi la détente commence à être valorisée à la fin du 19e siècle, même si c'est quelque chose qui est beaucoup plus présent aujourd'hui. Mais alors de quelle façon cette détente à la fin du 19e siècle, elle commence à exister et à être mise en avant?
Vous voyez, chaque fois, ce qui est marquant dans ces types de questions, c'est que chaque fois on voit une étape supplémentaire. On voit un moment qui fait exister quelque chose d'autre et qui fait exister une sensation qui jusque-là n'était pas prise en compte. Non pas qu'elle était absente, mais elle n'était pas prise en compte. Alors, qu'est-ce qui se passe dans la deuxième moitié du 19e siècle? Je pense que c'est un problème, une fois encore, qui mêle à la fois l'espace et l'intériorité. Deuxième moitié du 19e, vous avez de nouveaux meubles. Vous avez des meubles qui permettent au corps de s'affaisser davantage, qui, au fond, légitiment, dans une certaine mesure, l'affaissement. Et en légitimant l'affaissement, il légitime le fait de s'éprouver plus et mieux. Et donc, vous avez des meubles. Moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Ça m'a indiscutablement plus qu'intéressé. Vous avez des meubles, je pense à des chaises, par exemple, qui acceptent le balancement, mais qui surtout jouent aussi sur la possibilité de déplacer le dossier, de façon à ce que vous puissiez vous abandonner, comme les sièges qui sont ici, d'ailleurs, je dois vous dire. Vous pouvez vous abandonner davantage en vous inclinant, vous voyez. Et quand vous vous abandonnez davantage en vous inclinant, vous interrogez davantage sur ce que vous éprouvez. C'est-à-dire qu'à la limite, vous essayez de trouver la meilleure formule qui correspond à la meilleure façon de vous éprouver. Mais alors, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une notion totalement nouvelle qui est précisément ce que vous évoquiez, la détente. Vous voyez, il y a une notion nouvelle à la deuxième moitié du 19e, à la fin du 19e, qui est détendez-vous. Alors avec des symptômes qui sont relevés, les coups qui sont trop tendus, les épaules qui sont trop fermes. Et donc il y a un travail nouveau qui crée à la limite, cette fois, non plus seulement de la position, non plus seulement du commentaire, mais de l'exercice. Et aujourd'hui, qu'est-ce que c'est autre que le yoga? Qu'est-ce que c'est qu'autre la gymnastique de détente? Sinon, le fait de créer des exercices qui sont absolument fabriqués pour que vous vous sentiez autrement.
Et là encore, cette évolution est perceptible dans la littérature. Il y a des auteurs comme Huysmans, par exemple, qui vont décrire cette détente et raconter ces moments de bien-être.
Alors, oui, je crois que la littérature, de ce point de vue, peut-être plus que la philosophie, finalement. Bien que la philosophie soit très loin d'être négligée, un auteur comme certains auteurs contemporains sont absolument fondamentaux, si vous voulez. La traîne Néant chez Sartre, etc., vous voyez. Mais la littérature a une richesse considérable parce qu'elle s'autorise quelque chose qui est de l'ordre du jeu sur le langage et la suggestion à partir du langage. Et donc, on voit effectivement des auteurs, vous évoquez Huysmans, il est très important, qui mettent en scène des héros qui essaie d'évoquer la manière dont il s'éprouve autrement selon le lieu dans lequel il se trouve ou selon la manière dont il passe d'un lieu à un autre. Et ils décrivent ce qu'ils éprouvent. Mais vous avez aussi des auteurs comme cela qui sont très attentifs à ce genre de choses, qui décrivent absolument, dans l'œuvre par exemple, ils décrivent très bien Zola, la manière dont le peintre, selon le lieu où il est, se dit autrement. Et va provoquer des œuvres qui sont autres, avec des projets qui sont autres, vous voyez. Il y a un auteur qui, bien sûr, de ce point de vue, est absolument majeur, pour ne pas dire totalement central, c'est celui dont je trouve que nous sommes les enfants, c'est Proust. Proust va explorer systématiquement l'ensemble de la sensibilité en montrant comment les fameux cinq sens, c'est-à-dire l'ouïe, l'odorat, le goût, le toucher, et la vue, comment ces cinq sens ont aussi leur effet intérieur. Comment la musique que vous écoutez, par exemple, fait vibrer quelque chose qui est dans votre intériorité? Comment votre sensibilité extérieure, le fait de marcher, va réveiller chez vous des sensations qui sont liées à l'intérieur de votre jambe, renvoyant à des souvenirs qui sont... C'est fondamental et c'est absolument passionnant parce que vous voyez bien que là, il se produit quelque chose qui est le fait de monter un échange central entre l'extérieur et l'intérieur. Ce ne sont plus les sens externes. Dans la tradition, ça a toujours été les sens externes. C'est-à-dire les fameux cinq sens dont je viens de parler. Que met en scène Proust, les sens externes ont une intériorité, ont une façon de se retourner vers vous-même pour questionner votre propre intériorité et du coup aussi questionner votre passé. C'est tout simplement, la Madeleine, c'est ça, hein.
Et puis ce nouveau rapport au corps, Georges Vigarello, au XIXe siècle, va conduire à de nouvelles pratiques d'achat, à de nouveaux comportements, de nouvelles façons d'être, de se tenir, liées à des exigences de beauté notamment. Et c'est ainsi que le corset prend une place centrale au cours du XIXe siècle.
Alors je crois que ce qui se passe au XIXe siècle en particulier, pour le corps féminin, mais aussi pour le corps féminin, pour le corps masculin, ce qui se passe essentiellement, enfin, disons le mot, pour le corps féminin, c'est le passage. J'avais travaillé sur ce sujet quand j'avais fait un livre sur la robe. C'est le passage d'une apparence qui est une apparence donnée par des modèles extérieurs. Le modèle de la robe, il est donné en quelque sorte de façon extérieure, c'est une géométrie, à des vêtements qui vont de plus en plus prendre la forme de votre propre anatomie, ce qui n'est pas du tout la même chose. Bon. À ce moment-là, bien sûr, les contraintes s'effacent, tout ne s'efface pas, parce que vous avez une tenue à garder, bien entendu, on ne peut pas se promener en étant courbé, etc. Mais la façon dont vous vous éprouvez, la sensibilité va prendre va prendre une importance plus grande. Et si vous poursuivez, moi c'est ça que je trouve important, si vous poursuivez et que vous tirez la ligne jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il se passe le fait que vos habits sont censés solliciter la manière dont vous les ressentez. Vous voyez, quand vous lisons les textes, lisons même les publicités, ils disent, au fond, il faut trouver la robe de soie. Mais de soie, S-O-I-E. La robe qui vous convient. La robe qui correspond parfaitement à la manière dont vous vous éprouvez. Ça, c'est une première chose. Et une deuxième chose qui se produit aujourd'hui, je renvoie à ce que vous suggériez tout à l'heure, c'est le fait d'inventer de nouveaux jeux. Et ces jeux sont centrés sur la sensibilité interne. Qu'est-ce que c'est que les jeux de glisse? Qu'est-ce que c'est que les jeux de l'aile delta où vous éprouvez le vent? Qu'est-ce que c'est que les jeux de skate? Sinon, des jeux qui sollicitent la manière dont vous réagissez au message qui vient de l'extérieur, mais qui entraîne chez vous une sensibilité interne et une réaction pour vous adapter au message que vous venez de percevoir. C'est absolument fondamental. On l'oublie. On croit que ces jeux sont comme ça des inventions superficielles, etc. Pas du tout. Ces jeux sont liés à la façon dont les corps se sont interrogés autrement aujourd'hui et prennent de nouveaux plaisirs, ouvrent sur de nouvelles sensations qui sont des sensations de plaisir, d'excitation et de satisfaction.
Georges Vigarello, on arrive presque au terme de cette émission. Je rappelle que vous vous êtes intéressé à cette histoire de la perception du corps car vous cherchiez à expliquer le rapport que l'homme contemporain entre avec son corps. Comment définiriez-vous aujourd'hui ce rapport en quelques mots pour conclure?
Je pense que fondamentalement, aujourd'hui, notre identité passe d'abord par la manière dont nous éprouvons physiquement. Il n'y a pas que ça, heureusement, bien sûr. Mais la racine de l'identité passe par la façon dont nous éprouvons.
Dans la droite lignée du 18e et du 19e siècle.
Bien sûr, c'est le 18e qui a inventé. Nous sommes les enfants du 18e.
Et c'est l'heure de retrouver Arjuna Andrade pour les nouvelles de l'écho. Bonjour Arjuna.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
Vous avez choisi de vous pencher aujourd'hui sur le débat autour de l'extension du congé de paternité.
Absolument, les discussions sur ce sujet ont en effet été relancées grâce à un rapport remis au gouvernement par l'Inspection Générale des Affaires Sociales et préconisant d'allonger ce congé et de le rendre en partie obligatoire. L'objectif étant évidemment de rendre plus attractif cet arrêt dévolu aux pères suite à la naissance de leur enfant pour en démocratiser l'usage. On rappellera qu'aujourd'hui, les femmes salariées ont droit à un congé maternité de 16 semaines pleinement rémunéré et dont la moitié est obligatoire. Pour les hommes, la situation est bien différente puisqu'ils ne bénéficient que de 11 jours de congé remboursés dans les mêmes conditions que les femmes.
Mais alors pourquoi le rendre obligatoire ?
Eh bien parce que cela obligera les hommes à faire un choix. Comme l'explique Virginia Langbach, directrice de l'Institut européen pour l'égalité des genres, sans législation, les hommes n'ont pas besoin d'assumer leurs responsabilités et le partage des tâches continue de s'effectuer sur une logique bien connue dictée par des pseudo-impératifs économique. Toujours Virginia Langbach, je cite, les hommes gagnent en général plus que les femmes, ils perdront donc de l'argent en restant à la maison, ce qui explique que dans l'immense majorité des cas, ce soit la femme qui se retrouve à la maison pour garder les enfants. Il faut donc un congé qui soit exclusivement réservé à l'homme et qui soit suffisamment bien indemnisé pour que cela ne représente pas une perte de salaire pour le ménage.
Il a donc fallu mobiliser des logiques économiques pour favoriser l'égalité entre les sexes.
Oui, et même de basses logiques comptables, comme bien souvent pour convertir les esprits sceptiques du bien fondé d'une politique. Il est nécessaire de recourir aux saintes mannes de la croissance. Il a donc fallu rappeler que l'absence prolongée des femmes du marché du travail entraînerait une remise en cause de leurs qualifications et rendrait plus difficile leur réinsertion professionnelle par la suite. Au contraire, un meilleur partage des tâches permet d'augmenter le travail des femmes et contribue ainsi à la croissance de l'économie. Difficile de trouver à redire à une démonstration aussi époustouflante d'évidence. On regrette simplement qu'il faille encore justifier l'égalité de traitement entre les sexes à la maison comme sur le marché du travail par des considérations d'ordre purement économique. Une réappropriation des revendications de parité et de diversité par des logiques néolibérales, pour citer la sociologue Réjeanne Sénac.
En réalité, les avancées en matière de congé parental ont toujours oscillé entre les logiques de repos et les impératifs économiques.
Exactement. La toute première loi consacrant la possibilité pour les femmes d'arrêter le travail après la naissance d'un enfant, votée en 1905, et pensée comme une loi de protection de l'emploi des femmes en couche. Cet arrêt de travail est bien entendu facultatif et il faut attendre 1913 pour que le législateur élabore un texte visant explicitement le repos du corps des femmes. Avec la question du congé paternité, c'est à nouveau cet arbitrage qui est proposé à la société, celui de devoir faire coïncider bien-être personnel et sauvegarde de la bonne marche de l'économie. L'économiste Hélène Périvière rappelle ainsi que la question du congé paternité est bien entendu liée au droit pour les travailleurs hommes de passer plus de temps avec leur nouveau-né et à celui des femmes de ne pas être seules. Elle rappelle également la nécessité d'une construction durable du lien père-enfant dont les effets se feront ressentir jusqu'à l'adolescence. Si le père n'est pas celui qui met au monde l'enfant, il en va toutefois de la qualité de sa relation avec son enfant, mais aussi selon plusieurs études d'un bien-être plus général, puisqu'il a été démontré que passer du temps avec son nouveau-né réduit le stress et améliore la santé des parents. Des bénéfices bien physiques qui viennent donc suppléer aux logiques évidentes de partage des tâches à une période où se créent les automatismes du couple parental.
On se quitte sur un morceau du compositeur Issa Hassan intitulé « Intimité ». Demain, on s'intéresse aux représentations du corps et à leur récupération par la publicité. En attendant, vous pouvez bien sûr réécouter nos émissions sur franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter, hashtag « Entendez-vous l'écho ».